sa parure. Tu te moques de tout, je crois. Tu te moques de tout, je crois. Demain je t'en lancerai trois par devant ta porte cochère pour faire tomber tes amis. Trois et quatre pavés j'ai mis, j'exècre tes amis, ma chère. Demain je recommencerai, demain je recommencerai.
What is right and what is wrong?
Garde les yeux grands ouverts.
Les bras ouverts, les yeux grands ouverts.
Qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne sait pas ce qui se passe. Et justement, c'est ça qui se passe, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe.
Tu vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul.
J'avance les yeux grands ouverts.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon.
Excusez-moi, c'est une mauvaise blague.
Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas ?
Camarades, d'aucuns diront que le syndicalisme est à la société moderne ce que le mercurochrome est à la jambe de bois.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Les Yeux Grands Ouverts sur Radio Canu. Il est 23h09 et nous reprenons l'émission après deux semaines d'absence. Et ce soir, nous allons finir de parler de la télévision, puisque nous avons déjà fait deux émissions sur le bouquin de Michel Desmurger qui s'appelle TV Lobotomie. Ce soir, nous allons terminer donc cette petite épreuve. Ce sera la troisième partie et la dernière. Nous allons aborder les aspects des conséquences de la télévision sur la santé, notamment sur la violence. Et tout ça, et on va un peu aborder ce sujet tout à l'heure. Avant de commencer donc l'émission et de parler de la télévision, vous savez que comme depuis la rentrée de janvier, comme à chaque fois, il y aura le petit billet d'humeur. Vous pouvez également suivre l'actualité des Yeux Grands Ouverts grâce à la page Facebook, donc vous allez sur le réseau social Facebook et vous tapez les yeux grands ouverts dans la barre de recherche, vous tomberez sur la page, il vous suffit de mettre j'aime et de vous abonner au fil d'actualité et vous aurez toutes les infos concernant les yeux grands ouverts sur votre mur, enfin sur votre fil d'actualité Facebook. Il y a également possibilité de réécouter tous les podcasts de l'émission sur le blog de l'émission Les Yeux Grands Ouverts, qui se trouve hébergé par Radio Canu, bien entendu. Donc l'adresse du blog, c'est blogs.radiocanu.org/les-yeux-grands-ouverts, tout au pluriel, grand et ouvert avec un S. Si vous voulez envoyer des mails ou faire des suggestions, vous pouvez le faire sur la page Facebook ou sur plein si vous voulez nous contacter, mais vous pouvez également envoyer un email à l'adresse suivante lesyeuxgrandsouverts@laposte.net. Si vous avez des suggestions, des idées, des questions, quoi que ce soit d'autre ou quoi que ce soit d'autre pour l'émission Les Yeux Grands Ouverts. Et je vous rappelle donc, concernant la plus particulièrement Radio Canu en général, que nous sommes toujours en campagne de souscription, donc pour essayer de pérenniser l'activité de Radio Canu, pour s'assurer un peu plus de sérénité au niveau financier. Nous cherchons à acheter des locaux, donc si vous voulez nous aider, nous filer un coup de main, envoyez vos dons à Radio Canu, Radio Canu, boîte postale 1101 69 201 Lyon, CEDEX 01. Voilà pour ce qui concerne l'émission Les Yeux Grands Ouverts et Radio Canu. Donc si vous voulez être généreux avec nous, c'est avec plaisir. Alors donc ce soir nous allons parler de la télévision comme je vous le disais, mais avant de commencer nous allons faire comme nous faisons d'habitude ces derniers temps, nous allons commencer par le billet d'humeur. Alors dans le billet d'humeur aujourd'hui il va être question de Manuel Valls, vous vous en doutiez, et de plein d'autres choses.
La rage dans le mic, entre deux repas de soufflé, inutile et torchon.
On mélange pas les torchons et les sopalins. C'est compliqué.
Alors, dans la série, parfois on croit qu'on nous prend pour des cons, mais cette fois-ci, on en est sûr. Je voudrais cette semaine, ce dimanche, vous parler de Monsieur Indignation Sélective. C'est un homme qui, lorsqu'il observait le pouvoir et des autres, et qu'il observait ce pouvoir équipé de sa matraque, disait « Bouh, c'est nul !» Et une fois arrivé au pouvoir, équipé de cette même matraque, fait exactement subir la même chose que ce qu'il reprochait aux autres. Donc il l'utilise avec zèle en plus et tape encore plus fort que ceux qui l'avaient à l'époque et qui le critiquaient. Hein. Alors on va écouter tout de suite comme il est mignon et sympathique ce jeune homme.
Le 49-3 est une brutalité, le 49-3 est un déni de démocratie, le 49-3 est une manière de freiner, d'empêcher le débat parlementaire, mais il va se poursuivre ce débat parlementaire d'une manière ou d'une autre.
Voilà, vous avez donc reconnu votre formidable président de la République qui fustige le 49-3 hein, avec des grands airs et habitué à... Déjà à l'époque, on voit qu'il était fan de l'anaphore pourrie et redondante. Alors, que peut-on ajouter à tout cela? Doit-on encore charger la barque et ou tirer sur l'ambulance? Je pense qu'il en est même plus la peine. Non content d'avoir trahi tous ses électeurs avec de faux discours sur l'ennemi qui est la finance, de n'avoir appliqué de ses 60 propositions que ce qu'il voulait, mais surtout d'avoir choisi un Premier ministre ayant fait 6% à la primaire socialiste, maintenant il se décide à prendre tout le monde à revers sur les questions économiques et faire pire que Nicolas Sarkozy. Mais attendez, sa grandiloquence ne s'arrête pas là. Car même si le système de la 5ème République est pourri et on le sait, il doit normalement offrir la possibilité de débattre des lois à l'Assemblée. Eh bien, sentant le foin, le gouvernement décide d'utiliser l'article 49.3, article permettant de faire passer en force une loi sans vote au préalable du Parlement, lequel n'a pour seul recours, pour s'opposer à cette loi, que de renverser le gouvernement par le biais d'une motion appelée motion de censure et qui doit être adoptée par 1/10 de l'Assemblée. Au plus tard, 24 heures après le passage de la loi. Après, c'est trop, c'est foutu. Autant dire que tout est foutu, car peu de députés auront l'envie de renverser ce gouvernement, hein, qui agit favorablement à tous les intérêts privés que l'on connaît. Que faire alors? Abandonner la 5ème République, ça on sait. Oui, ça on en est sûr. Mais combien de temps faudra-t-il attendre encore? Encore 2 ans à subir et peut-être rater le coche et se retrouver avec des gens pires ou plus graves. Doit-on prendre les risques doit-on prendre le risque de prendre les pics et les fourches comme on l'a fait en 1789? Parfois on peut se poser la question, c'est peut-être la solution. En tout cas, ce qu'on peut dire, merci à ce gouvernement de la droite complexée, hein, parce qu'il y a, ceux qu'on appelle les gens de la droite décomplexée, et eux c'est pas vraiment la gauche, donc c'est la droite complexée. Et merci à eux pour tous ces conseils. Surtout, n'oubliez pas, comme le disait Macron, il faut que les jeunes aient envie de devenir milliardaires. Quelle belle philosophie qui débouchera sûrement sur un vivre ensemble de qualité, un monde où personne ne tentera d'écraser personne. Et tout ceci met vraiment en avant et en exergue les valeurs qui sont prétendument, qui doivent prétendument être défendues par le mouvement socialiste. Voilà pour ce qui est du petit billet d'humeur. Ce n'est pas fini, mais aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau personnage qui sera là de temps en temps dans l'émission maintenant. C'est monsieur Marcel Rabajois qui va vous apprendre de diverses manières, hein, comment rater sa vie. C'est un consultant pour les yeux grands ouverts et qui veut mettre en valeur comment rater sa vie, tout simplement. Il vous l'expliquera mieux que moi.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite séquence conseil et rentre dans le droit chemin ou pas. Séquence qui, une fois appliquée à la lettre, vous permettra d'être des pas winners. Je me présente, je suis Marcel Rabajois, artiste subventionné, et c'est moi qui vais vous conseiller. Alors aujourd'hui, comment pas réussir un entretien téléphonique pouvant aboutir à un entretien d'embauche? Pour cela, il vous faut une offre d'emploi que vous trouverez sur Internet, à Pôle emploi ou dans un canard. Pour cette démonstration, j'ai sélectionné pour vous cette annonce d'une grande surface, recherchant un magasinier à temps partiel, payé bien entendu au SMIC. Tout de suite, démonstration.
Allô?
Allô, bonjour, monsieur, j'appelle pour votre annonce.
Ah oui, laquelle?
Bah, celle de magasinier, pardi. C'est le poste qui fait rêver, là. Vous savez, 20 heures de travail par semaine pour le SMIC.
Oui.
Ça me fait tellement rêver que je vais plutôt vous proposer d'aller vous faire foutre. Non?
Monsieur, s'il vous plaît.
Tiens, puis regarde ton annonce de je t'en fous.
Mais calmez-vous, j'appelle les flics, moi.
Et voilà, à la semaine prochaine pour de portants conseils pour devenir des pas winners. Au revoir.
Sacré Marcel, il est complètement dérangé, je crois. Alors, nous allons continuer cette entreprise que nous étions en train d'entamer et que nous avons entamé à plusieurs reprises déjà dans les yeux grands ouverts, parler de la télévision. Alors, nous allons parler de la télévision par le biais... Excusez-moi, pardon. La grippe est un petit peu violente cette année. Par le biais de conférences et d'un bouquin notamment qui a été sorti par un neurologue, un chercheur en neurosciences qui s'appelle Michel Desmurget, et qui a fait regrouper en fait en quelque sorte un peu toutes les études scientifiques qui sont sorties au sujet de la télévision et notamment de ses conséquences dans divers milieux, etc., etc. Donc on a déjà commencé un peu lors des précédentes émissions à évoquer certains aspects. On a notamment parlé des effets de la télévision sur le langage et des petits détails comme cela, ce qui ne sont pas des détails d'ailleurs, sur l'échec scolaire, sur pas mal de choses. Et l'aspect que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est les aspects notamment de la santé et également la violence. Et ce sera d'ailleurs la dernière émission concernant le sujet. Alors, nous allons commencer par parler de la santé. Alors, toujours bien entendu, tout ce que j'ai dit est appuyé sur la conférence et le bouquin de Michel Desmurget. qui donne donc son avis en même temps qu'il donne pas vraiment son avis, il donne un résultat d'études scientifiques, hein. Il n'y a pas de jugement de valeur dans tout ce qu'il fait. Alors notamment il aborde le sujet de la télévision par le biais pour savoir les conséquences que ça peut avoir sur la santé. Il l'aborde par un biais, par un thème qui s'appelle l'obésité infantile, tout simplement. Alors, dans les statistiques scientifiques qui sont sorties suite à des études, on s'aperçoit qu'un enfant qui regarde la télé plus de 2 heures par jour, à 3 ans, a 3 fois plus de chances d'être obèse. Sachant que ce n'est pas non plus question de jugement de valeur ou quoi que ce soit, mais qu'un enfant qui est en surpoids lorsqu'il est petit, il a 8 chances sur 10 de le rester une fois qu'il sera adulte. Alors après, pas question de se poser la question de savoir s'il faut être parfait et tous avoir un corps super svelte, mais c'est tout simplement que ça peut engendrer des gros problèmes de santé derrière, quoi. Alors ce surpoids peut s'expliquer par le fait que regarder la télévision est tout simplement une activité sédentaire, hein, on est calé dans un canapé et on ne bouge pas. Cette activité qui est de regarder la télé phagocyte celle comme le sport par exemple, puisque un gamin qui passe ses journées assis sur un canapé ou un fauteuil, peu importe, devant la télé, c'est un gamin qui ne va pas jouer dans les squares avec ses copains, etc., etc. Donc il ne fait pas fonctionner son cardio, son cœur, sa circulation est à son pouls est à un très bas niveau. Des études ont prouvé notamment que aussi pour en rester toujours à l'obésité infantile, hein, donc que la télé, le fait de regarder la télé peut perturber, en fait non c'est pas peu, c'est perturbe les mécanismes de satiété, donc c'est-à-dire la satiété c'est la sensation de ne plus avoir faim ou d'avoir faim, hein, mais voilà, c'est pour savoir où vous en êtes à ce niveau quand vous voulez vous nourrir. Si vous mangez par exemple devant la télé, vous mangez le même plat normalement devant la télé ou pas devant la télé. Dans le cas où vous regardez la télé en même temps, vous avez tendance, en moyenne, c'est ce que font ressortir les études scientifiques, vous aurez tendance à manger 30% de plus que si vous ne mangez pas devant la télé. Parce que le fait de regarder la télé en même temps que vous vous nourrissez perturbe un peu le cerveau et les informations circulent moins bien. Et donc votre estomac n'arrive pas à informer votre cerveau de la bonne manière et au bon moment pour lui faire comprendre que vous avez assez mangé. Alors par exemple, il faut savoir que l'influence que peut avoir la télévision, hein, sur notre cerveau peut aller un peu plus loin. Si par exemple, on montre un film où il y a des gens qui mangent à quelqu'un, hein, n'importe qui, s'il regarde un film où les gens mangent, en sortant, inconsciemment, une fois que les gens ont regardé le film, ils vont être influencés, l'information sera passée dans le cerveau sans qu'ils s'en rendent compte, ils ne le savent pas au moment où l'information rentre dans le cerveau, mais elle rentre bel et bien. Et après avoir regardé donc ce film où les gens mangent, ou ce passage à la télé, ou peu importe, et ben les gens vont manger beaucoup plus le repas qui suit derrière. Donc c'est-à-dire qu'en fait, l'information est rentrée sans que l'on s'en rende compte. Alors pour ce qui concerne l'espérance de vie, hein, qui est quelque chose qui subit les conséquences de ce que peut faire la télévision. Alors on estime, selon les études qui sont sorties, au total que la télévision peut coûter 2 à 3 ans d'espérance de vie, due à la sédentarité, notamment surtout des enfants, car quand vous êtes petit, que vous êtes un enfant, votre organisme, comme ce qu'on évoquait la dernière fois pour le système cognitif et notamment le développement du langage, lorsque vous êtes petit, vous construisez la base de votre système immunitaire, de vos artères par exemple, ou même pour votre système cognitif et pour votre façon de parler. Ça se construit quand vous êtes tout petit, comme une base, comme sur un immeuble. Si la base est mal construite, et ben forcément l'immeuble ne peut pas monter haut. Donc ce qui se passe, c'est que si jamais quand vous êtes petit vous passez trop de temps devant la télévision, vous faites moins de sport forcément, donc les artères chez l'enfant vont mal se développer, parce que à force de faire du sport, les artères grandissent, le sang apprend, le sang circule mieux, etc., etc. L'enfant qui passe beaucoup de temps devant la télé s'expose au risque d'avoir des artères qui ne se développent pas bien, et donc un jour est susceptible peut-être de faire une crise cardiaque ou quelque chose d'autre quand il sera beaucoup plus vieux, hein, pas quand il est petit. Et cette crise cardiaque, à ce moment-là, on ne sera pas forcément assez lucide pour se poser la question de savoir qu'est-ce qui a pu entraîner cette crise cardiaque, mais ça peut être une des longues conséquences du fait de la télévision, du manque de sport entre guillemets, puisque mauvais développement des artères à un jeune âge peut entraîner des fragilités une fois que l'on vieillit. Alors, une statistique, enfin une étude a démontré que entre 2 et 4 heures par jour de télévision, c'est environ 2 fois plus de risque de maladie cardiaque. Voilà, qu'une personne lambda qui ne regarde pas la télé. C'est pareil pour l'enfant, hein, donc comme je disais, qui se développe. Il y a une étude australienne, qui est sortie sur 10 000 personnes, donc une étude plutôt sérieuse, sur un symbole en fait, qui s'est un peu attaqué à un symbole, c'est Dr House. Donc c'est une émission, enfin pour ceux qui connaissent, c'est une série américaine où il y a un docteur un peu atypique, un peu singulier, un peu charismatique, qui essaye dans chaque épisode de trouver des solutions pour soigner des malades, etc., etc. Donc ils ont en fait fait un parallèle pour essayer de mettre en exergue le fait que la télé n'était pas forcément bonne pour la santé. Et ils ont tout simplement fait des recherches et ils se sont aperçus que, par exemple, regarder un épisode de Dr House, ça vous rapproche de votre mort, tout simplement parce que vous passez du temps devant la télé, du temps que vous ne passez pas à faire autre chose. Donc la statistique, le résultat qui est sorti de cette étude, c'est qu'un épisode de Dr House, c'est 22 minutes de vie en moins en moyenne, hein. Donc c'est quand même symboliquement assez drôle de vous dire que quand vous regardez Dr House, essayez de trouver comment éviter la mort d'un patient, et ben vous, quand vous regardez ça, ça vous rapproche de 22 minutes de la vôtre. Voilà, intéressant, n'est-ce pas? Alors, pour continuer sur l'aspect de la santé, sur la télévision et sur les conséquences de la télévision sur le système de système immunitaire, sur la santé de chez vous, eh bien, on va écouter un petit morceau d'une conférence de Michel Desmurget qui parle là du tabagisme. Alors, ça doit durer 5 minutes, hein. Et donc, il va évoquer un peu les conséquences que peuvent avoir les médias, donc surtout la télévision et les écrans ou le cinéma en général, sur les gens et qu'est-ce qui peut engendrer des situations, comment dire, que les gens se mettent à fumer. Voilà. J'ai un peu du mal ce soir, c'est pas facile, c'est la fatigue. Donc c'est parti, on écoute Michel Desmurget.
Des petits neurones dans le cerveau qui dit...
Alors, je vais prendre l'exemple du tabagisme, maintenant pour la santé. S'il y en a parmi vous qui fument, je suis désolé, c'est pas ni pour culpabiliser les gens, ni pour avoir un jugement, mais c'est juste parce que c'est assez emblématique. 95 ou 98% des gens qui fument voudraient bien arrêter. Ils n'y arrivent pas parce que c'est super compliqué. Une fois que c'est dans le système, c'est dans le système. Et l'exemple du tabagisme, il est particulièrement intéressant parce qu'il ne devrait y avoir aucun lien entre télévision et consommation tabagique. Il ne devrait y avoir aucun lien parce que la publicité est interdite. Les placements de produits sont interdits. Donc ça devrait être zéro relation. L'industrie du tabac, elle perd beaucoup de monde en bout de chaîne. Quelques Maccabées à l'arrivée. Si elle ne chope pas les gamins jaunes, elle ne les chope jamais. C'est-à-dire que si vous n'avez pas chopé un gamin, si vous n'avez pas commencé à fumer entre 20 et 21 ans, avant, vous ne serez jamais fumé. Ah, il y a des poissons volants, il y a des extraterrestres qui te mettent à fumer à 55 ans. Mais abstraction faite des poissons volants, vraiment sur l'ensemble de la population, il y a très très peu de chances que quelqu'un qui n'a pas fumé à 20, 21 ans se mette à fumer un jour. Donc il faut coincer les gamins quand ils sont ados. Le facteur principal de conversion d'un adolescent au tabagisme, c'est pas de savoir si ses parents fument, c'est pas de savoir si ses copains fument, c'est de savoir ce qu'il a vu à la télé. C'est le facteur qui pèse le plus lourd. Alors on a l'impression que ça diminue, mais pas du tout. Dans 70-75% des films de la dernière décennie, vous avez des images tabagiques, on les voit pas toujours. Je me souviens de ce débat qu'il y a eu après Avatar, où on demandait aux gens, tiens, est-ce que vous avez eu des scènes tabagiques? Et les gens disaient non, et pourtant il y avait cette scène mémorable, notamment où Sigourney Weaver sortait de son espèce de sas. C'est la première chose qu'elle disait après avoir passé, je sais pas, c'était des mois, des années dans son voyage. Oh, une cigarette, j'ai besoin d'une cigarette. Une fois, ça va, mais quand c'est des milliers de fois que c'est répété. Chez les hommes, le jour où j'étais dans le train, il y avait un mec qui regardait un film, je crois que ça s'appelait Des mineurs, ce que j'ai vu. Et le mec, c'était un viril, quoi. Plaquette de chocolat et tout, enfin un vrai quoi. Et le mec, à chaque fois qu'il déminait une bombe comme ça, il suait comme une bête et après il sortait sa cigarette et faisait facile. Voilà, des milliers de fois. Et tout ça pour arriver au fait que les représentations du tabagisme dans les films sont extrêmement positives. C'est des gens qui sont socialement accomplis, c'est les super nanas, c'est les mecs qui ont le super boulot, la grosse voiture, qui réussissent bien, c'est toujours festif. Et surtout, les effets négatifs ne sont jamais appréhendés, ou très rarement. Les mecs, ils n'ont pas de cancer. mais ils sont pas mauvais, ils ont pas les dents jaunes, ils ont pas d'asthme, rien. Jamais. Donc pas d'allusion, c'est pareil, c'est ce que je vous dis pour le tabac, je pourrais vous le dire pour l'alcool, pour l'obésité, je vous dirai quelques mots sur la sexualité, mais pareil. Donc c'est des milliers d'expositions, pas d'allusion aux effets négatifs. Le facteur de risque, entre les gamins qui vont être le plus exposés à ces images-là et les gamins qui vont être le moins exposés, vous augmentez la probabilité qu'un gamin se mette à fumer entre 3 et 4, ça dépend des études. C'est-à-dire vous avez 4 fois plus de chances de faire un fumeur s'il a été exposé à ça. Encore une fois, ça passe sous les barrières. Le cerveau, je vous l'ai dit, c'est une super mécanique, mais c'est con. Vous dites à un gamin, bouh, fumer, c'est pas bien. Ou bouh, vous envoyez en l'air sans préservatif, c'est pas bien. Ou bouh, picoler, c'est pas bien. Le gamin, il entend ça. Et après, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des milliers d'occurrences d'images qui font que il n'y a pas de problème. C'est toujours la star, c'est toujours le beau mec, c'est toujours la super nana. Ils ont toujours des super situations. C'est toujours des situations extrêmement festives et extrêmement plaisantes dans lesquelles on voit apparaître ces comportements-là. Et le cerveau, lui, vous le dit pas, mais il finit par imprégner tout ça. Tout ça, ça impacte. Et le cerveau, il finit par se dire, oh merde, bouh, peut-être, mais oh, regarde. Et le cerveau, lui, réfléchit pas comme nous, si je puis m'exprimer ainsi. Le cerveau, lui, ça rentre et il prend. Et il vous le dit pas. Vous, vous dites bouh, mais lui, il dit, putain, pas mal la gonzesse. Etc, etc. Et ça, ça finit par rentrer dans le système. Mais vraiment, je vais vous le montrer, ou en tout cas essayer. 52%, alors c'est des études épidémiologiques, toujours avec les mêmes outils statistiques, qui sont les mêmes utilisés d'ailleurs en cancérologie partout, c'est des outils standards et universels. 52% des ados ont essayé parce qu'ils ont été exposés à des scènes tabagiques. 1 sur 2. 1 sur 2 qui a allumé une clope, c'est parce qu'il a regardé la télé. 33% sont devenus des fumeurs chroniques via la télévision. C'est le facteur qui pèse le plus lourd. Voilà, aux États-Unis, mais en Europe, c'est à peu près pareil, c'est 145 000 par an morts. Mais on nous dit que ça n'a jamais tué personne.
Et voilà, qui est plus clair certainement pour vous. Et donc, une manière d'expliquer pourquoi le tabagisme peut être une des conséquences de, d'heures passées devant la télé. Michel Desmurgés, mais tout simplement, on exergue le fait que même si le cerveau a l'air d'imprimer une information, celle qu'on lui dit, qu'on essaye de lui transmettre, que par exemple, fumer c'est mal, c'est mauvais pour la santé, lorsque dans les films ou même à la télévision, il voit des milliers de fois des occurrences avec des personnages qui... fument, sont, ont énormément la classe, sont beaux comme tout, réussissent tout dans la vie, sont intelligents, et qu'en plus on n'y laisse apparaître aucun point négatif de leur tabagisme. Par exemple, on ne montre pas le fumeur dans le film avec les dents jaunes ou en train de tousser, etc., etc. Et ben forcément, même si l'information imprimée par le cerveau est celle qui a voulu être transmise, c'est fumer c'est mal, en voyant des images comme celle-ci, et ben inconsciemment le cerveau, lui, il comprend l'inverse et sans spécialement nous le dire à nous directement ou sans spécialement qu'on ait conscience de ce fait et que l'information ait été comprise de cette manière-là. Alors, pour ce qui est d'un autre aspect, hein, c'est peut-être une question qui est bonne, qui doit être posée. En France, nous pratiquons pas mal dans les films ou dans les programmes à la télévision. On applique une fameuse bannière qui marque tout public pour pas mal de films. Alors que, par exemple, dans certains pays comme l'Allemagne ou les États-Unis, ils sont beaucoup plus sévères sur la censure. Il y a beaucoup de films qui sont interdits aux moins de 17 ans ou des choses comme ça, par exemple. Ils respectent plus les censures et notamment selon les aspects, ça peut être parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a du sexe ou parce qu'il y a beaucoup d'images tabagiques, etc. Alors oui, on peut dire que ça fait un peu bolchevique de se dire qu'il faut tout censurer, etc. Mais c'est tout simplement un garde-fou. Après, on est libre ou non de le faire respecter pour ses enfants. Voilà, alors si jamais par exemple dans l'environnement d'un enfant, d'un jeune homme quoi, ou d'une jeune fille d'ailleurs, personne ne fume, l'exposition qu'il va avoir face au film et ce qu'il va le voir dans les films, scène tabagique qu'il risque d'y voir, multiplie par 10 le risque qu'il se mette à fumer. Alors que si jamais autour de lui il a des gens qui fument, ça ne sera pas pareil. Alors, par exemple aussi, un enfant qui fait respecter, il y a des études qui ont été faites, qui respectent toutes les limites de censure qui sont affichées par différents organismes, hein, ça peut être le CSA pour la télévision, etc., etc. Si toutes les censures sont respectées, ils s'aperçoivent que ça diminue par 3 le risque qu'un enfant se mette à fumer, ce qui est quand même pas négligeable. Alors donc voilà pour l'aspect plus tabagique, donc c'est peut-être la censure qui a un rôle à jouer là-dedans, en tout cas au moins d'avertir, parce que cette bannière tout publique, en tout cas je suis pas forcément d'accord à 200% là-dessus, mais Michel Desmurgés pense que les autorités régulatrices devraient être un peu plus prudentes sur les messages qui sont transmis dans les films, c'est où on a tendance à mettre en avant et en mettre en valeur certains personnages qui fument et sans filtre pour les jeunes spectateurs. Alors notamment il y a un autre aspect qu'il évoque, c'est la sexualité à la télévision. Alors là c'est intéressant, mais je pense qu'on va se passer un petit morceau avant et après on en parlera un peu. Et alors donc déjà vous avez entendu une petite bride d'un morceau tout à l'heure parce que j'ai un peu bugué au moment où j'ai voulu passer le passage de la conférence de Michel Desmurgés, mais c'est pas ce morceau qu'on va passer du coup parce qu'il a été défloré donc ça n'a plus aucun intérêt. On va se passer un morceau du groupe américain Tool qui s'appelle Right Into. Bon il dure 8 minutes 30 hein, mais accrochez-vous, c'est du très très gros son. We'll be right back. Vous êtes toujours dans les yeux grands ouverts sur Radio Canu, il est 23h45, ou minuit moins le quart si vous préférez. Et ce soir nous parlons toujours de télévision, enfin toujours. Nous parlons de télévision, nous faisons la troisième partie de l'émission qui concerne ce sujet. Et en revanche, les podcasts des deux premières parties, il y en a un des deux qui n'est pas écoutable. Je pense que c'est la première partie de l'émission, si je me souviens bien. Il y a eu un problème avec le podcast, ça a merdouillé et donc du coup je ne vais pas pouvoir le transmettre, désolé. Donc pour l'instant vous pouvez juste accéder à la deuxième partie de l'émission qui est sur le blog de Radio Canu, où il y a tous les podcasts. Je vous rappelle l'adresse, c'est blogs.radiocanu.org/lesyeuxgrandsouverts, ou autrement si vous préférez vous pouvez tout simplement aller directement sur le site de Radio Canu. Vous allez dans le planning, vous cliquez sur les yeux grands ouverts qui se trouve le dimanche de 23h à minuit et vous serez automatiquement redirigé sur le blog de l'émission où sont présents tous les podcasts. Voilà pour situer un peu les podcasts des précédentes émissions. Donc, nous étions en train de commencer à aborder l'aspect de l'influence télévisuelle sur la sexualité. Alors, la sexualité à la télé, ça a aussi des influences, de la même manière que pour le tabac. Le système va être frappé, en fait, par des images, par des situations, qui, même si on lui a pourtant expliqué l'inverse sur plein de sujets, sur certaines choses, si on lui a dit qu'il fallait faire attention et ne pas faire ci ou pas faire ça, si à plusieurs reprises il voit des images ou des situations télévisuelles ou dans des films qui prouvent totalement le contraire, cela va avoir une influence sur sa perception des choses sans que forcément il s'en rende compte. C'est ce que je vous disais juste avant, et c'est comme le disait Monsieur Desmurget dans le petit passage que j'ai diffusé tout à l'heure, où il parlait de l'influence de la télévision sur le tabac. Voilà, donc c'est toutes ces images que votre cerveau enregistre et qui infusent inconsciemment en vous. Alors, pour la sexualité, ce que met en avant Michel Desmurget, c'est que à la télévision, les rapports sexuels ont lieu souvent entre deux personnes. Ça peut même être plus, hein. Vous regardez ce que vous voulez à la télé, il n'y a pas de souci. Donc c'est entre deux personnes, mais souvent les deux personnes, au moment où arrive ce moment fatidique, c'est des personnes qui ne se connaissent pas depuis très très longtemps. En plus, au moment où ils passent à l'acte, bien entendu, je sais que tout ceci n'est pas très romantique, et c'est pas par cet aspect-là qu'il veut l'aborder, hein, mais c'est que dans ces moments-là, on n'y voit jamais un préservatif ou quelque chose dans ce genre-là. Alors, bien entendu, ce qu'il explique, c'est qu'il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, hein, c'est juste que il faut pas s'étonner après que toutes ces petites images aient des influences sur la sexualité des gens. Il n'y a pas de sensibilisation, notamment dans les films, quant au risque des MST et des choses comme ça, des grossesses précoces ou des choses dans ce genre-là. Donc l'influence est forcément notable. De plus, il suffit un peu de regarder tous les stéréotypes sociaux qui sont véhiculés par certains films ou par les clips notamment. Ça c'est encore plus flagrant, encore plus probant dans les clips vidéo, comme on voit dans la manière dont est traitée la femme ou le rôle qu'elle a joué dans ce moment-là, c'est-à-dire elle est juste en position d'objet, puisque en fait le seul prisme qui permet pour elle de se mettre en valeur dans ces clips vidéo, c'est leur physique et pas forcément le fond de leur musique ou plein d'autres choses comme celle-ci. Et donc forcément tout ceci a aussi une influence sur la jeunesse et sur plein d'autres gens, et inconsciemment ça infuse dans les jeunes spectateurs qui regardent ces choses-là et qui par la suite ont tendance à interpréter ça de la mauvaise manière sans s'en rendre compte et avoir une image de la femme qui est plutôt dégradante. Alors il y a en plus, dans tous ces messages qui sont véhiculés par les clips vidéo ou certains films, il peut y avoir un aspect dévalorisant. Le message qui est sous-entendu dans les clips, hein, ou peu importe ce qu'on a raconté dans la musique, de toute façon il faut qu'il y ait des fesses et des seins qui soient exposés partout dans le clip. Ce qui sous-tend que de toute façon dans la société, et si on veut avoir un peu la classe, il faut coucher. Et par conséquent, si certaines personnes n'arrivent pas ou n'ont pas envie de coucher, eh ben, ils peuvent avoir le sentiment d'être un peu nul et à la ramasse et ne pas suivre le wagon de la société. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent contribuer au mal-être de certaines personnes à cause des vidéos et des aspects et des valeurs qui sont véhiculées par certains vidéoclips ou certains films ou certaines émissions télé ou tout ce que vous voulez. En tout cas, tout ce qui a trait à la télévision. Des études pour s'éloigner un peu plus de la sexualité. Non, en fait, c'est pour rester dans la sexualité. Des études ont été effectuées sur des filles de 11 ans et ils se sont rendus compte que celles qui regardaient beaucoup la télévision, et notamment les clips, etc., avaient trois fois plus de chances de faire des grossesses précoces. Tout simplement parce que les messages qui étaient transmis dans certaines de ces émissions ne mettaient pas vraiment en avant le fait qu'il fallait faire attention, ne valorisaient pas du tout la contraception ou plein d'autres choses comme celle-ci. Donc ça a eu des conséquences et le risque, c'est que il y a trois fois plus de risques qu'une de ces jeunes filles qui regardent beaucoup la télé fasse une grossesse précoce. On va quitter un peu l'aspect de la sexualité, mais on va rester sur la santé et on va parler d'anorexie. Alors, ils ont amené la télé dans des îles, aux Fidji notamment, où elle n'y était pas. Une des îles Fidji, puisqu'il y en a plusieurs. Alors c'était des populations aborigènes qui étaient là-bas, hein, qui, par contre chez eux, ils avaient une culture particulière, c'est que dans leur culture à eux, ils voyaient les formes et les rondeurs chez les personnes, hein, chez les femmes notamment, et même aussi chez les hommes, comme un marqueur social positif. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas forcément comme dans la société moderne chez nous, où dès qu'on voit quelqu'un, enfin dès que certaines personnes voient quelqu'un un peu un peu empoté, un peu plus gros que la moyenne, on a tendance à le montrer du doigt. Là, non, chez eux, c'était pas forcément quelque chose de négatif. Alors, les chercheurs ont fait des études avant que la télé arrive dans ces îles-là, puis ils ont implanté la télé et sont revenus 3 ans après. Alors, à l'époque, une fois qu'ils avaient fait leurs études, les premières études avant l'arrivée de la télévision, ils avaient trouvé 0% de gamines au régime et 0% de troubles du comportement alimentaire. Dans ce qu'on appelle trouble du comportement alimentaire, c'est le fait de se faire vomir, le fait de mal manger, le fait de ne pas manger. Voilà. Ce qui a trait plus ou moins indirectement à l'anorexie. Ils sont revenus donc 3 ans plus tard, alors que tout se passait bien au niveau alimentaire, qu'il n'y avait pas de trouble particulier. Ils sont revenus donc 3 ans après, et quand ils sont revenus, 70% des gamines adolescentes avaient fait un régime. C'est-à-dire, n'avaient pas fait un régime sur les 3 ans, bien entendu, mais à un moment donné, avaient entrepris un régime pendant une période. Chose qui ne se faisait pas du tout avant. 11% des gamines aussi avouaient, et ils s'étaient rendu compte que 11% donc avaient des troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire des débuts de troubles anorexiques dans leur alimentation. Et là, on peut constater l'effet de la télé. C'est tout simplement, alors après, il faudrait pousser l'étude un peu plus loin pour savoir dans quelles émissions et qu'est-ce qui peut engendrer ce genre de mal-être, mais on sait qu'en tout cas que c'est l'effet de la télé, puisque de toute façon la télé n'était pas implantée dans ces îles-là, et c'est donc tout simplement l'avènement de toute cette normativité qui est véhiculée par la télévision et les médias en général, ou peut-être même le cinéma à certains moments, qui entraîne ce mal-être pour certaines personnes. Voilà pour ce qui est l'aspect sur la santé, notamment l'anorexie. Alors on va aborder un autre thème, et celui-là ô combien plus important, et qui a notamment fait super longtemps débat, et qui fait encore d'ailleurs débat aujourd'hui, sur ce qui est la télévision et le cinéma plus en général. C'est la violence à la télévision et ses conséquences. Alors, les chercheurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les chercheurs ne se posent même plus la question de savoir si les images violentes rendent agressifs. Eux, ils en sont sûrs et certains, il n'y a plus les questions, c'est même plus un débat. Michel Desmurget ironise d'ailleurs un peu là-dessus, il dit « Si jamais vous arrivez aujourd'hui avec une étude scientifique qui montre que quand on regarde un truc violent à la télé, on devient violent. Vous amenez ça à une revue scientifique, tout le monde va vous rigoler au nez en vous disant bah oui, mais ça on le sait depuis 15 ans. Donc si tu veux, tu peux publier ton truc dans Oui Oui Magazine, mais nous on est au courant depuis très très longtemps. Donc ça c'est très important. Tout le monde pourtant ne le sait pas. On entend beaucoup dire de choses à ce sujet sur la violence à la télévision. On voit quand on regarde la télévision aujourd'hui qu'il y a pourtant encore beaucoup d'images violentes à n'importe quel moment de la journée, notamment même dans les journaux télé. Et pourtant il est prouvé, et c'est prouvé par toutes les études scientifiques, que les images violentes ont tendance à rendre plus agressives. Il y a zéro probabilité donc que des images violentes ne vous rendent pas un peu plus agressives. Alors quand on dit agressif, agressif, pardon. Quand on dit agressif, c'est pas, ça veut pas dire que parce que vous allez regarder un film où il y a des scènes violentes, vous allez prendre une tronçonneuse, aller chez votre voisin et le découper en morceaux, hein, bien entendu. Mais c'est juste que ces images violentes vont vous rendre un tout petit peu plus agressif. Par exemple, vous allez, je sais pas, au supermarché, au bureau de tabac, n'importe où, après avoir regardé des trucs un peu violents, et ben, c'est juste qu'au moment où, par exemple, vous allez acheter votre paquet de cigarettes ou peu importe d'ailleurs, quand vous allez acheter votre truc, vous allez passer à la caisse ou je ne sais quoi. Si jamais on vous dit pas bonjour, on vous fait pas un sourire, ben vous allez prendre les boules et vous allez vous accrocher avec la personne ou des choses comme ça. C'est juste des variations d'état d'esprit qui sont très sensibles, mais ça rend toujours un petit peu plus agressif. Alors, 60% des émissions dans les études qui ont été menées contiennent des émissions qui passent à la télé, donc c'est-à-dire ça peut être les films, les téléfilms, tout ce que vous voulez. 60% des programmes contiennent des actes violents. Dans tous ces programmes, il y a répertorié également aussi ce qui concerne les programmes pour la jeunesse, parce que c'est pas parce qu'une action est symbolisée est mise en forme par un dessin animé ou par des dessins que le contenu n'en est pas moins violent. Alors, un spectateur qui regarde régulièrement la télé, il voit environ 2500 crimes et 13 000 actes violents par an. Voilà. Donc en fait, pour illustrer un peu tout ça de la meilleure des manières, si jamais il y avait autant d'actes violents et de crimes dans la vraie vie, de tous les jours, et ben dans 2 mois, il n'y aurait plus un seul habitant en Europe. Voilà, c'est quand même pour montrer que le support télévisuel ne met pas toujours en exergue ou en valeur les bons aspects de l'âme humaine et ne montre pas toujours les bonnes choses. Alors, il y a autre chose aussi qu'il faut un peu noyer, une idée reçue qu'il faut noyer et qui est souvent mise en avant par des lobbies ou par n'importe quoi, hein. C'est ce qu'on appelle l'effet catharsis. Alors, on va expliquer un peu ce que c'est. C'est, par exemple, moi, j'ai envie de faire du mal à quelqu'un, j'ai des pulsions un peu violentes. Je regarde à la télé un passage violent, et du coup, ça va me purger, ça va me soulager, et ça va évacuer cette pulsion violente qu'il y avait en moi, par le biais de la perception que j'ai eue de ce qui s'est passé dans le film ou à la télévision. Ça, c'est ce qu'on prétend. On dit que l'effet catharsis serait ça. Par exemple, je symbolise d'une autre manière. J'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie de faire pipi. Et à la télé, je vois un mec qui fait pipi. Hop, j'ai plus envie de faire pipi. Et donc, ça, c'est ce que certains disent. Notamment, on entend parler beaucoup de ça sur les films d'horreur ou les films violents. Hein, oui, donc du coup, c'est un effet catharsis. Ça purge la pulsion de violence ou la pulsion de mort qu'on peut avoir en soi en regardant ces films-là. Alors, 3500 études scientifiques ont été menées pour essayer de détecter cet effet catharsis et zéro ne l'ont trouvé, absolument zéro. Alors en plus, ce qui explique Michel Desmurgés, c'est qu'il y a des fois où il y a des petites études au final dans ce gros halo d'études qui peuvent un petit peu partir en sucette, partir un peu de côté, un peu de biais et arriver à faire sortir des chiffres qui ne reflètent pas la réalité. Et ben là, même pas. Il dit que dans les résultats qui sont advenus de toutes ces études, c'était un combo, un perfect. Aucune étude n'a été capable de prouver que le catharsis existait. Donc, voir des images violentes à la télé ne peut pas rendre moins violent, ce n'est pas possible, c'est totalement l'inverse. Alors en plus, quand on voit de la violence à la télé, on ne montre pas toujours les effets, hein, parce que par exemple, dans les dessins animés, on va voir un chat qui court après une souris qui va lui mettre des coups de balai sur la tête, mais les conséquences, elles sont minimes, hein, bien entendu, dans le dessin animé où Coyote, il va tomber de sa montagne, il va se faire écraser par un rocher, et on ne voit pas les vrais effets de la violence. Donc ça aussi, ça peut avoir des effets sur le cerveau sans qu'on s'en rende compte. Alors il faut savoir que les effets sur le cerveau sont très forts et souvent nous imprègnent par le subconscient. Par exemple, si vous regardez une vidéo avec une vieille dame et qu'après vous allez, vous déplacer pour aller boire un coup, je sais pas quoi, et ben sans vous rendre compte en fait, inconsciemment, vous allez vous déplacer plus lentement. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait vous avez vu une vieille dame avant et que ça vous a influencé, que ça a traversé la ligne de flottaison de votre cerveau. Par exemple, vous voyez aussi, vous regardez par exemple à la télé un bras de fer. Et ben, au moment où vous allez regarder le bras de fer, sans vous rendre compte, inconsciemment aussi, il y aura une très légère contraction de votre muscle, de votre biceps, au moment où vous verrez l'action ou le bras de fer qui sera exécuté à la télévision. De la même manière aussi, si par exemple vous voyez à la télévision quelqu'un qui se fait piquer le bras ou je sais quoi, ou qui par exemple se fait planter un couteau, et ben la zone, quand on fait passer à l'IRM et qu'on regarde les réactions du cerveau devant une scène qui est comme ça, et ben les zones du cerveau qui concernent la partie qui est touchée dans le film, qui par exemple est plantée ou je ne sais quoi, et ben elles s'inhibent pour vous protéger en fait. Donc ça a vraiment une influence. Il ne faut pas croire que ça n'a pas une influence. Des fois, le cerveau a des réactions bizarroïdes et il se laisse influencer par ce qui se passe autour de lui. Par exemple, une autre étude qui a été menée, on met un homme tout seul assis sur une chaise devant une table avec une pomme posée sur la table. Et on lui demande de la prendre. Donc il va la prendre à une certaine vitesse. Et on réessaye l'expérience, on remène la même expérience, mais l'homme, on le met sur cette table entouré de deux mannequins. Mais des mannequins, hein. Le mec qui est devant la table, devant la pomme, sait très bien que personne ne va bouger pour lui prendre la pomme, parce que ce sont des mannequins. Il en est conscient, il en est sûr, il n'y a pas de fourberie dans l'histoire. Et ben on s'est rendu compte que de toute manière, quoi que l'on puisse faire, quoi que l'on puisse dire, quoi que l'on puisse savoir, le fait qu'il y ait deux mannequins à côté de lui, et ben la personne, au moment où on lui demande de saisir la pomme, et ben elle va la saisir plus vite que si jamais il n'y a personne, absolument personne autour de lui. Cela fait partie des réactions du cerveau et du subconscient qui, prend les devants à certains moments. Alors par exemple, pour prouver aussi les effets de la télévision sur la violence des gens, pardon, ils ont montré des séquences de films violents à des gosses, plus ou moins violents en fonction des séquences et des gosses à qui ils ont montré ça. Et après, ils les ont envoyés faire un match de hockey et après, ils comptaient les fautes, tout simplement. C'est un bon marqueur. Ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'ils montraient une vidéo violente à certains gamins, enfin les gamins qui avaient vu une vidéo violente avant d'aller jouer au hockey, et ben durant le match ils faisaient trois fois plus d'actes d'anti-jeu ou de fautes. Hein. Donc c'est quand même assez significatif. Un enfant par exemple qui est exposé une heure par jour à du football américain, donc c'est un sport qui est quand même assez violent, assez radical, et aussi au dessin animé Spider-Man. Alors moi j'ai jamais vu ce que ça donne, mais apparemment c'est un dessin animé où il y a beaucoup d'action, donc de temps en temps il y a un peu de bagarre, etc. Ça reste relativement soft, hein, c'est du football américain et un dessin animé. Hein. Ben, ils se sont rendus compte qu'exposé une heure par jour à des tels programmes, il y a 4 fois plus de risques que l'enfant ait des problèmes de comportement violent à certains moments. Donc ça a vraiment une conséquence assez forte. Le lien qui existe, par exemple, pour essayer de symboliser, d'illustrer tout ça, le lien qui existe entre les images agressives qu'on perçoit et la violence qui est retranscrite derrière, qui émane de nous, et toutes les actions violentes qu'on va pouvoir entreprendre ou l'agressivité qui découle de ces images violentes qu'on a vues à la télé, la proportion entre les deux est à peu près égale à la proportion de cancer du poumon qui sont conséquences du fait de fumer une cigarette. De fumer des cigarettes, pardon. Donc c'est pour vous dire que c'est pas négligeable, c'est loin d'être négligeable. C'est-à-dire que en fait, vous avez autant de risques d'avoir un cancer du poumon si vous fumez que vous en avez d'être violent si vous regardez des images violentes. Voilà, c'est quand même assez frappant. Pour expliquer un peu ce qui peut être une des conséquences du fait que la société peut être un peu plus violente. À certains moments, c'est le fait de ce que Michel Desmurger appelle, certainement tous les neurologues, mais c'est par lui que nous l'avons appris, c'est l'habituation, le phénomène d'habituation, c'est-à-dire votre cerveau habitué à certaines situations n'y fait plus spécialement attention et ne les perçoit plus de la même manière. Il illustre la manière suivante. Par exemple, lorsque vous vous parfumez, au moment où vous parfumez, vous sentez bon, vos neurotransmetteurs captent l'odeur qui est retransmise par votre nez, par vos capteurs olfactifs. Et donc, au début, vous sentez que votre parfum sent bon. Et puis, au bout de 5 minutes, vos capteurs, ils en ont un petit peu ras-le-bol, ils sont un peu saturés, et puis, de toute façon, vous savez que ça sent. Donc, vous allez sentir un petit peu moins. Et puis, un quart d'heure après, ce sera encore pire, vous ne sentirez même plus du tout cette nouvelle odeur, parce que vos capteurs ont totalement saturé, et puis ils en ont ras-le-bol. Donc, ils savent que vous êtes au courant que vous sentez bon, mais vous vous y êtes habitué, tout simplement. Et bien, c'est exactement le même phénomène qui va se produire pour la violence. Ils ont montré par exemple des films complètement chargés de violence. C'était des violences notamment faites aux femmes, tout ce qui est viol ou agression ou des choses comme ça à certains gamins. Apparemment, c'est des études qui étaient possibles il y a une vingtaine d'années. Maintenant, ça ne l'est plus. Un peu comme l'expérience de Milgram. Il y a des trucs au niveau déontologique qui posent certains problèmes. Donc, ils ont montré des images comme celle-ci à des classes, à des jeunes hommes. Et quelques temps après, certains d'entre eux, une bonne partie, tous même en fait, ont vu, ont reçu dans une classe ou ont vu lors d'une conférence ou de choses comme ça, une femme qui témoignait d'une chose qui lui était arrivée, d'une agression qu'elle avait dû subir. Et il s'était rendu compte que les gamins, enfin les jeunes hommes qui avaient regardé les vidéos qui, super violentes quelques temps auparavant, avaient pas du tout la même perception du fait qu'il soit arrivé ça à la jeune fille, et le ressentaient d'une manière différente, et ils arrivaient presque, pour certains d'entre eux, pas à le justifier, mais à dire que quelque part elle l'avait cherché, etc., ou que c'était pas si grave qu'elle allait s'en remettre. Et tout ça dû au fait qu'ils ont vu énormément d'images violentes la semaine auparavant, et donc du coup ça les a moins choqué de voir cette personne qui vient témoigner devant eux. Donc ça, c'est vraiment illustrateur du phénomène de ce qu'on appelle l'habituation. Et ça, c'est un des mots aussi qui peut imprégner la société en général. On est au droit aussi aujourd'hui de se poser la question de savoir pourquoi la société devient-elle violente de plus en plus, même si elle l'a beaucoup été aussi dans l'histoire, il ne faut pas se voiler la face, mais peut-être plus violente qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Tout simplement parce que à la télévision, les gens sont peut-être habitués, ils sont victimes entre guillemets de ce phénomène d'habituation, c'est-à-dire leur cerveau est accoutumé à voir de la violence tout le temps, et donc la perception qu'ils en ont lorsque la violence se présente à eux n'est plus du tout la même. Ils n'en ont plus peur, ils sont habitués et peuvent même, pour certains d'entre eux, franchir le pas de cette violence. Et ça peut être une des conséquences de la télévision, notamment quand on se voit, je ne sais pas si pour certains d'entre vous vous regardez, mais il suffit d'allumer les chaînes, notamment surtout TF1, tous les soirs ou quasiment tout le temps dans la journée, on a le droit à des émissions avec des séries ou des choses comme ça, où il y a eu des meurtres dans tous les sens, où il y a des agressions ou des choses comme ça. Ce qui n'est pas vraiment valorisant pour la société, et qui n'est pas forcément vecteur de très bonnes influences à long terme, de ce phénomène d'habituation. C'est aussi ce qui peut se passer lorsque, par exemple, une personne se fait agresser dans la rue, et de plus en plus on est exposé au fait que les gens qui sont autour ne remuent pas, ne bougent pas, personne ne va aider la personne qui se fait agresser. Certains pensent, et notamment certains neurologues, que ça peut être aussi dû au phénomène d'habituation. Voir beaucoup d'images violentes tout le temps nous rend spectateurs de ces images violentes et ne nous fait plus réagir à certains moments. Voilà pour ce soir et ce qui est de la télévision. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté Les Yeux Grands Ouverts. Il est 7:00. On a dépassé un petit peu, mais c'est la fin de l'émission. Donc je vous rappelle toutes les petites infos concernant Les Yeux Grands Ouverts. Vous pouvez nous réécouter sur le blog blogs.radiocanu.org/lesyeuxgrandsouverts, tout au pluriel, grand et ouvert avec un S. Il y a la page Facebook si vous voulez nous retrouver. Vous tapez notre nom, Les Yeux Grands Ouverts, sur le réseau social et vous mettez j'aime. Toutes les infos seront affichées dans votre fil d'actualité. Et n'oubliez pas surtout d'envoyer de l'argent à Radio Canu pour sécuriser l'activité de la radio et nous permettre un peu plus d'innovation. Donc vous envoyez vos dons à Radio Canu, boîte postale 1101 69 201 Lyon, CEDEX 01. Voilà, et ben je vous remercie d'avoir écouté l'émission Les Yeux Grands Ouverts. On se retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée, une bonne nuit si vous allez vous coucher, et n'oubliez pas, amour et révolution, et à la semaine prochaine. Salut, ciao.